Salut et bienvenue dans Field School, le podcast qui part à la rencontre des stars du web et des warios du quotidien qui ont un point commun, le harcèlement scolaire. Je suis Guillaume Villain et deux fois par mois, j'invite des personnes inspirantes pour parler sans filtre de leur parcours de harcèlement mais aussi de leur réussite. Chaque épisode se concentre sur un profil particulier avec son point de vue et ses solutions. Si tu souhaites aller plus loin, Field School, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend les solutions abordées durant l'interview et les approfondit. Dans cette newsletter, je t'offre des ressources qui te permettront de creuser les sujets qui t'intéressent. Je t'invite donc à t'y inscrire à l'adresse fieldschool.substack.com. Aujourd'hui, je suis honoré de donner le micro à Gabrielle Rasquinet, une voix puissante dans la lutte contre l'addiction qui touche la vie de millions de personnes à travers le monde. Ayant traversé les épreuves de la violence familiale et du harcèlement, ainsi que son propre combat contre l'addiction à la cocaïne, Gabrielle a su transformer sa souffrance en un outil de changement positif. À travers son podcast « Sortir de l'addiction », il crée un espace de partage, d'entraide, d'inspiration pour ceux qui cherchent à reprendre le contrôle de leur vie. Bonne écoute. Enchanté, bonjour, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, dire brièvement de où tu sors?
De où je sors? Bah, comme tout le monde, hein. Non, mais je ne veux pas partir sur ce terrain-là. Non, je m'appelle Gabrielle Rasquinet, j'ai 30 ans. Je suis l'heureux créateur du podcast qui s'appelle Sortir de l'addiction. Et du côté professionnel, je suis freelance en ghostwriting. On va dire que j'aide des dirigeants à manager leur ligne éditoriale et leur stratégie éditoriale sur LinkedIn. Donc, je les accompagne à communiquer et je fais ça essentiellement sur le secteur de la santé mentale où des personnes qui ont un parcours de vie chargé, qui est au cœur de leurs engagements, un peu comme moi avec les addictions et le podcast. Donc, j'ai deux casquettes, freelance et podcaster aujourd'hui. Et donc, engagé sur un projet global de santé mentale et plus précisément sur les addictions.
Génial. On va aller directement sur repartir en l'enfance et progresser en fait avec le fil conducteur de ton parcours de vie et de parcours scolaire. Puisque ce qui m'intéresse, moi, en fait, on est quand même beaucoup plus sur le scolaire, sur le parcours de vie, comment on fait pour un peu se retrouver et les situations, les anecdotes que tu auras sur le harcèlement. Donc on va repartir maternelle, primaire et voir un peu qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu peux nous dire. Et nous partager. Alors, en préparant mon interview, j'étais tombé sur un truc qui m'avait enfin, je me demandais qu'est-ce qui t'est arrivé parce que t'adorais le sport à l'école et t'adorais les récréations. Et donc, ça veut dire un peu moins l'école. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça?
En fait, il faut poser le contexte. Chez moi, déjà, il y a un environnement familial qui est violent. Donc, moi, j'ai compris à l'âge de 25 ans que j'avais grandi 25 années sous emprise de ma maman. Et que j'avais subi des violences psychologiques toutes ces années. J'ai aussi eu des beaux-pères qui faisaient partie de ma vie, j'en ai eu deux précisément, et le cœur, le point névralgique de la violence, c'était ma maman, mais il y avait quand même le contexte familial qui était toujours compliqué, avec les beaux-pères aussi. Et donc, l'état dans lequel moi j'étais, parce que j'étais victime de ces violences-là à la maison, on peut se douter que j'étais pas plein de vitalité, que j'étais assommé, que j'étais en état que j'ai compris plus tard, mais ce qu'on appelle la sidération. Donc c'est parce que les actes ne correspondent pas à ce qui devrait être fait et c'est tellement violent et tellement pas cohérent avec le sens de la vie que quand on est enfant, eh bien on déconnecte quoi. Donc on a ce qu'on appelle aussi la dissociation. C'est des moments où pour se protéger d'une violence qu'on vit ou dont on est témoin aussi. Des fois c'est pas que quand c'est dirigé vers nous. Eh bien on se met un peu en pause comme ça. Et donc moi j'étais tout le temps dans des états, tu vois, de ce style-là, de dissociation, de tête en l'air, etc. Et c'était une façon de me protéger en fait de la violence que je subissais à la maison. Et donc l'école. Pour répondre à ta question sur j'adorais la récré, parce qu'en fait l'école ne m'intéressait pas parce que je ne trouvais pas le contenu intéressant et en plus de ça parce que j'avais pas les capacités cognitives ou en tout cas c'est pas les capacités cognitives, j'avais pas le niveau d'attention assez soutenu que pour suivre des cours parce qu'en fait moi mon énergie elle passait dans la survie et dans l'attente, l'appréhension, l'anticipation des éléments violents que je vivais à la maison. Donc j'étais affaibli en fait par rapport à ça. Donc la récré c'était ma bulle d'air. Et le sport, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai toujours enfin, on m'a mis au sport tout petit et j'ai toujours accroché. J'ai fait plein de sports différents. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé le karaté. J'ai fait de la natation, du football, du basket. Enfin, j'ai fait plein de l'athlétisme, tous des trucs que je faisais en compétition en plus, tu vois. Donc, je veux dire, pas juste au cours de gym. Et c'est des années plus tard que j'ai compris que le sport m'aidait à me dépenser et que c'était aussi un échappatoire. Donc, la récré, c'est parce que ça me permettait de souffler et de m'évader des cours qui n'étaient pas intéressants. Et le sport, parce que physiquement, c'était une manière de garder le contrôle et le contact avec... avec moi-même, quoi.
Quand tu parles des violences familiales, juste si tu peux pas rentrer dans le détail, mais juste préciser pour qu'on comprenne plus ou moins les difficultés que tu as vécues, je sais pas si tu peux préciser un peu.
Bah, oui, c'est toujours compliqué de définir l'emprise psychologique et la violence psychologique, parce que c'est ce qui constitue les violences que j'ai subies, c'est la répétition de plein d'atteintes à mon intégrité, à mon image... sur une durée très très longue. Ce sont des événements qui, isolés, pourraient être perçus comme « ouais, la personne a été maladroite » ou « ça pourrait arriver et on pourrait l'excuser ». Ce qu'on peut qualifier aussi de harcèlement moral, qui est une violence psychologique, c'est la répétition justement de plein de petites choses comme ça et qui, de la part de ma maman, c'était essentiellement du dénigrement. C'était toujours avoir une position de domination, donc dominatrice sur moi. Une autorité dominatrice et violente par les mots. C'était, oui, trouver les moyens qui allaient me blesser. Si je faisais une erreur, c'était la grossir et me dire que j'étais qu'une merde et que, de toute façon, je finirais comme mon père, alcoolique, sous les ponts, à la rue, ce genre de choses. C'était sans cesse, en fait. C'était le viol de mon intimité aussi, si tu t'es un jeune garçon, tu caches des choses dans ta chambre, elle va fouiller ta chambre et puis après mettre en évidence le truc que toi tu cachais parce que c'était ton intimité pour te montrer qu'elle était tombée dessus, quoi, tu vois. En fait, il y a tellement de trucs que je pourrais partir pour des heures. Il y a eu aussi beaucoup ce qu'on appelle l'aliénation parentale. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés quand je suis né, pendant la grossesse de ma maman. Mon papa est une personne alcoolique. Il a bu toute sa vie. Il a eu aussi une vie très compliquée avec une maman très compliquée. Lui ne voulait pas d'enfant et il s'est pas occupé de moi, mais parce que déjà lui, en tant que malade alcoolique, il avait déjà du mal à s'occuper de lui-même. Donc en fait, il avait pas les ressources pour s'occuper de lui. C'est pour ça qu'il voulait pas d'enfant. Et donc forcément, en plus, c'est ma mère qui l'a viré à la naissance pour me garder sous son contrôle. Pendant toute ma vie jusqu'à la vingtaine, en fait, elle a diabolisé l'image de mon père comme un père absent, qui n'était pas capable de prendre soin de moi, etc. Et donc moi, j'étais au milieu entre leur conflit de pension alimentaire, tu vois, tous ces trucs-là. J'étais utilisé comme un objet au final par ma maman et pas comme un enfant, quoi, tu vois. J'avais pas de réponse à mes besoins de sécurité, d'attention, d'affection, les besoins primaires. Des beaux-pères qui avaient la baffe très facile pour soit me corriger, soit pour me, tu vois, si je faisais pas mes devoirs, j'avais toujours la menace d'avoir une table derrière la tête. Si je mangeais pas ma soupe, tu vois, on pouvait
s'énerver. Sans prise de conscience de ta maman, pas de suivi psychologique, elle captait ou pas forcément?
C'est-à-dire?
Parce qu'elle te faisait subir. Est-ce qu'elle avait un recul là-dessus?
Non, pas du tout. Moi, mon analyse, et elle me concerne que moi, c'est qu'elle est concernée par quelque chose de pathologique, donc d'un trouble de la personnalité. Et encore une fois, c'est que ma propre analyse, une incapacité totale d'empathie. Incapacité totale à ressentir les émotions des gens qu'elle a en face d'elle. Et en plus de ça, le besoin de les détruire pour ne pas, elle, sombrer dans la folie. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais de l'énergie pour elle. J'étais une énergie qui... lui servait à avoir à la fois l'image d'une mère dans la société et qui lui servait aussi à se défouler. Parce que moi, j'étais un punching ball, quoi. Donc, toutes ses frustrations, sa colère, sa haine contre le monde ou contre tout ce qui pouvait exister, j'étais le paratonnerre, en fait.
Mmh. Ce qui t'affaiblit, ce qui complique aussi tes apprentissages, j'imagine.
Oui, totalement. Bah, parce que j'ai appris plus tard, après, j'ai été diagnostiqué TDAH. J'avais aussi fait des bilans au potentiel, mais ça, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut et c'est un truc que je mets rarement en avant. Mais j'avais aussi eu un résultat de diagnostic au potentiel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que. Isolé, c'est pas des choses, tu vois, qui pourraient être dramatiques. Mais le problème, c'est que quand tu as un environnement qui ne favorise pas justement l'épanouissement, quand tu mets le trouble de l'attention et finalement le haut potentiel, n'est pas, c'est pas aussi problématique que ça. C'est des capacités cognitives qui sont différentes, etc. Mais moi, le TDAH dans un environnement comme ça, c'était une catastrophe. Donc ça ne m'aidait pas. À être assidu ou concentré à l'école, effectivement. Ouais.
Et par rapport au harcèlement, puisque c'est vraiment la thématique, pareil, donc ça t'affaiblit pour tes apprentissages, mais ça t'affaiblit aussi par rapport à l'image de toi, ton estime.
Ah oui.
Et est-ce que c'est ça qui te provoque les situations de harcèlement ? Enfin, si tu sais nous raconter quelques anecdotes là-dessus.
Oui, le harcèlement, moi, je le connais, mais à l'époque, j'ai 30 ans aujourd'hui, mais à l'époque, le harcèlement, c'est pas ce que c'est. Hein. Mmh. C'est avec la théorie d'aujourd'hui que je me rends compte qu'il y a des moments où j'ai été harcelé. Moi, ça a commencé très tôt. Mes lunettes, déjà. Mmh. Mes lunettes qui, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux grâce aux nouvelles technologies, aux avancées dans le développement des verres, etc. Mais j'avais des lunettes avec des verres qui grossissaient très, très fort mes yeux. Donc, j'avais, tu sais, comme on dit, des culs de bouteille quoi, mmh. sur le nez à l'enfance. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai subi, mais... dont je me suis pas rendu compte à l'époque. Mais ça, c'est un facteur externe, physique, qui n'était pas lié spécialement à l'environnement familial. Mmh. Mais je me souviens avoir subi des remarques et compagnie. Par contre, l'affaiblissement dans lequel je me trouvais, à cause de l'état, à cause de l'environnement familial, j'étais une personne vulnérable parce que je n'avais pas appris à poser mes limites, parce que tout le monde les outrepassait tout le temps à la maison, parce que j'étais affaibli physiquement et émotionnellement à cause de ce qui se passait. Comme je le disais tout à l'heure, tout le temps j'ai vécu dans la survie en fait pendant 25 ans. Donc quand tu es dans un état de survie, mon système nerveux, enfin on parle de choses concrètes et scientifiques, c'est pas juste, enfin tu vois, c'est pas juste quelque chose comme ça qui sort de mon chapeau. Toute ton énergie est concentrée à survivre, et donc du coup bah tu deviens un profil plus facile, plus attaquable, parce que tu as dès que tu flanches, tu fléchis, ou dès que tu vois, on sent que t'es un peu moins fort. Bah, un groupe un peu plus dominateur va s'attaquer à toi un jour ou l'autre, ou le dominateur de l'école, ou le harceleur de l'école. Si un jour tu lui reviens pas et que tu passes devant lui, t'es quasiment sûr d'y passer parce que t'es une proie facile, quoi.
Et donc concrètement, ça s'est matérialisé comment, ces attaques, ou qu'est-ce que t'as vécu réellement?
C'était des épisodes. Moi, ça a souvent été avec le caïd de l'école, mais le caïd, j'ai compris aussi avec le recul après, c'est des gens qui étaient dans des environnements violents, souvent des personnes qui avaient dû partir et fuir des pays en guerre, des nationalités de personnes qui devaient s'intégrer ici, etc., et qui à la maison avaient un père qui était violent, qui buvait, qui battait maman, etc. Ça, c'est avec l'âge, le recul, l'expérience, et j'ai rencontré des années plus tard, des gens qui avaient eu des problématiques, enfin qui m'avaient agressé à l'époque. Et le truc, c'est que une fois, j'avais un pote qui habitait dans le même village que moi, qui jouait au foot avec moi et qui avait des emmerdes avec des gars d'une autre école. Et les emmerdes ont commencé à grossir. Et un jour, ils sont venus à 35 à la sortie de l'école et ils ont chopé mon pote. Mais comme on sortait ensemble de l'école, il y en a un qui a dit « Non, toi, tu viens avec aussi, tu vois ». Et ils l'ont emmené sur une place à 20 mètres, 30 mètres de l'école. Ils l'ont tabassé à la barre de fer. Enfin, ils l'ont vraiment roué de coups juste à 50 mètres devant moi. Et moi, j'ai eu de la chance de dire non, j'y vais pas. Enfin, bref, c'est lui qui voulait, tu vois. Mais un des gars de ce groupe-là, lui, par contre, ne m'a pas lâché la grappe. Et il se trouve que je prenais le bus avec sa petite amie, que sa petite amie venait tout le temps se coller près de moi, etc. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui lui a pris, on était sur une plaine de jeux dans mon village. La meuf me fait un bisou, tu vois. Et il y avait son petit frère qui était là. Son petit frère est allé balancer au gars. Et la semaine d'après, le mec est venu me chercher devant l'école. Mais moi, j'avais aucune défense. Je savais, enfin, tu vois, j'avais aucune défense. J'étais pas un caïd. J'avais pas du tout la tête sur les épaules ni le torse bombé. Et le mec est venu me chercher. Je l'ai suivi, totalement soumis. Et puis, il m'a mis une patate. Il a fait tomber mes lunettes. Il m'a mis une patate en mode, genre, touche pas ma meuf, tu vois. Mm-hmm. Et moi, j'étais là en mode, putain, mais dans quel monde est-ce que je vis, tu vois. Déjà, oui, ta meuf, ok, peut-être qu'elle me plaît, mais c'est pas moi, tu vois, le fautif dans l'histoire. Et ça, j'ai 12 ans, tu vois, j'ai 10-11 ans, donc, enfin, ouais, non, de première secondaire, donc c'est, ouais, j'ai 11-12 ans. Et par contre, là, le réflexe, moi, que j'ai eu, c'est, déjà, nous, chez nous, on l'a dit à nos parents ont parlé entre eux, et puis on est allé porter plainte à la police. Mon pote de l'époque est allé porter plainte parce qu'il s'est fait tabasser par 35 personnes. Et moi, j'ai été porté plainte quand ça m'a touché et que le gars qui faisait partie du groupe des 35 est venu sur moi. Et là, la police est intervenue assez rapidement. Et puis, il a été calmé. Et en plus de ça, il était connu des services de police. Okay. Mais il avait 13 ans. Il avait un an de plus que moi, tu vois. Mm-hmm.
Ouais, donc là, c'est vraiment le dépôt de plainte qui a aidé à améliorer la situation et qui n'est pas de récurrence, en fait.
Bah, le dépôt de plainte, et puis j'ai compris à ce moment-là que la meuf, même si on prenait le même bus, tu vois, j'ai compris que c'était un problème. Mmh. Donc, ouais, m'éloigner des personnes concernées. Mais par contre, ça a été compliqué parce que c'était toujours le stress dans la rue. Nos écoles étaient vraiment collées, enfin, c'était vraiment, elles étaient sur le même trottoir, quoi. Donc chaque fois le stress de quand je vais sortir de l'école, est-ce que aujourd'hui il y a des gens qui vont m'attendre, est-ce que tu vois,
c'est une pression qui est là et qui est une peur, en fait.
Ah oui, une peur. Mais le matin et le soir, moi j'ai déjà peur à la maison parce que c'est le bordel et que je sais jamais, enfin, si à la maison, si je rentre avec le sourire, en gros, il faut que ça aille mal, et si je rentre et que ça va mal, eh ben en gros il faudrait que ça aille bien, tu vois. Donc c'est toujours toujours dans un état comme ça sonné, et en allant à l'école dans le bus, c'est l'angoisse, la boule au ventre, même d'ailleurs dans le bus, tu vois, en étant dans cet état là moi j'ai vécu du harcèlement et des agressions à chaque fois isolées comme ça, mais qui découlent de l'état dans lequel j'étais. Une fois, un mec dans le bus, aussi connu par les services de police et compagnie, qui avait fait de la prison, il est à 10 mètres de moi dans le bus, vraiment, on est à l'opposé. Et probablement des problèmes psychiatriques ou quoi, et beaucoup d'alcool. À un moment donné, il me regarde, mais moi je le regarde parce qu'il fait du bruit dans le bus, il insulte des gens, etc. À un moment donné, il se lève et il me choisit moi, et il commence à me rouer de coups. Et parce que je l'ai regardé ou je sais pas quoi, je l'avais pas plus regardé que les autres qui le regardaient parce qu'ils foutaient le bordel dans le bus, tu vois. Et donc j'étais la cible comme ça, il y en a bien eu 10 hein, sur la période de 10, 15, 16 ans d'agression de ce style là mais les gens sont venus à chaque fois sur moi parce que j'étais la proie facile, quoi.
Et quelle solution t'as trouvé pour esquiver ou désamorcer les conflits? Est-ce que t'as eu des parades comme ça que t'as montées ou pas spécialement?
Non, c'est vraiment beaucoup plus tard. Hein. C'est en devenant adulte et en devenant un homme que j'ai...
Donc t'as subi
ça. J'ai subi très longtemps, ouais. Et j'ai subi jusque presque l'âge de 25 ans, parce qu'après, il y a le sujet de l'addiction qui est venu s'insérer dans ma vie. Et en fait, j'ai toujours été dans des relations dysfonctionnelles. Donc moi, j'ai toujours, jusqu'à l'âge de 25 ans, je me suis toujours positionné de la même manière que ce que j'étais positionné avec ma maman. C'est-à-dire, vous êtes des dominateurs, et en gros, moi, je me positionne en dessous de vous. Et je suis prêt à accepter que vous dépassiez mes limites. Je suis prêt à accepter que vous me dévalorisiez devant tout le monde, que vous lanciez des rumeurs sur moi, que vous fassiez des blagues sur moi et pas sur les autres. J'ai reproduit ces schémas-là, et même avec les filles, avec les femmes. Enfin, jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'ai eu que des relations de toxiques et dans lesquelles je subissais des agressions morales essentiellement. Pour les raisons que je te disais. Ouais.
Est-ce que tu avais déjà le regard de te dire il faut que je change quelque chose dans mon positionnement ou dans ma façon d'être ou pas du tout?
Non, pas du tout. À ce moment-là, les émotions et l'état dans lequel me plonge l'extérieur, en fait, je pars sur une base d'environnement familial qui est extrêmement violent et qui me met dans l'état dont je te parlais. Et puis vient la vie sociale, adolescence, extérieur, etc. Et là, c'est une deuxième couche d'emmerde pour moi. C'est une deuxième source de rabaissement. Je vis à l'extérieur en moins fort ou des fois en plus fort ce que je vis à la maison. Donc moi, dans ma vie, c'est deuxième partie qui est problématique. Et l'addiction, elle vient aussi un peu répondre à ce truc de « putain, mais j'en peux plus, moi ». Ça devient impossible à gérer, ça devient impossible à vivre. Je n'y arrive plus, je ne peux plus supporter, gérer tout seul, je n'ai pas les ressources. Et donc, quand tu as déjà un peu accès à l'alcool et que tu as accès aux sorties, aux fêtes et que tu te rends compte que les produits te permettent de t'échapper un petit peu, tu vois, de l'état du thorax qui est tout le temps compressé, de la boule au ventre, des intestins qui sont tout le temps resserrés, enfin l'angoisse permanente, et ben tu recommences, tu sors. Et c'est dans cette, tu vois, moi, ma réponse à la vingtaine, elle n'a pas été d'ordre ressources de développement personnel ou de psychologie ou de physique, etc. Non, ça a été on évacue et on fuit avec les drogues.
Ok. On va repartir un tout petit peu en arrière. Donc, sur ta partie secondaire, sur le parcours scolaire secondaire et comment tu as réussi à t'en sortir aussi dans ce parcours qui peut parfois être compliqué. Donc en secondaire, je sais pas ce que t'as vécu, le changement d'option.
Ouais, c'est ça en fait. Bah donc l'environnement dans lequel j'étais me rend totalement incapable de suivre des cours et donc toutes mes primaires, je gère parce que je me base. Enfin, j'ai des capacités, j'écoute, je fais un peu mes devoirs et ça passe. J'ai des bons points et compagnie. Mais dès qu'arrive la nécessité, l'exigence académique du secondaire. Avec la rigueur, l'organisation, faire ses devoirs, etc. Comme à la maison, moi, c'est pas possible de faire mes devoirs et que en plus ça, j'ai pas l'énergie pour. Je me retrouve. Donc je pars du. Il y a les options. Le latin grec, c'est l'option. En termes de perception, c'est l'élite. Enfin, c'est les meilleurs qui vont là, tu vois. C'est ceux qui vont, qu'on dit qu'ils vont faire ingénieur, médecin, tout ça, machin. Et puis après, tu as les techniques et puis tu as les professionnels. Enfin, je schématise, mais en gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc moi, je commence en général latin-grec. Et puis, première année, on me dit, bon, écoutez, le latin, on va peut-être oublier. Parce qu'en fait, le latin, ça me saoulait, j'avais pas envie de l'apprendre. Et donc, je suis descendu en technique. Et puis en technique, on m'a dit, monsieur, cette année, par contre, on ne pourra pas vous faire... Enfin, soit vous descendez, soit vous redoublez. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai redoublé ma deuxième secondaire en me disant, je vais aller dans une école de sport pour faire du sport de ma vie. Moi, j'avais envie de faire un truc genre kiné sportif ou même percer dans le sport. Et le problème, c'est qu'en deuxième, j'ai des problèmes de santé qui commencent à se déclarer au niveau des jambes, du dos, etc. Parce que des trucs qui ne sont pas bien suivis. Je dois subir une opération pendant cette année-là aux jambes. Parce que j'ai une jambe, j'ai 4 cm de différence dans la taille des jambes. Okay. Donc je commence un peu à boiter, mon corps compense, j'ai une scoliose, etc. Donc c'est sérieux, on me met des agrafes dans le cartilage de croissance de la jambe gauche, du tibia, pour ralentir la croissance et laisser grandir l'autre. J'ai 14 ans, 15 ans max à cette époque-là. Et donc ça arrête mon année de sport, enfin ça arrête mon sport.
Sport-études.
C'est ça, ça arrête le sport-études. Et donc, et par contre là, par rapport à cette époque-là, moi c'est la fin du monde. Parce que c'était ma ressource.
Ça s'effondre, ta bulle d'oxygène.
C'est avant les sorties et avant la connaissance des soirées, l'alcool, etc., ma ressource externe, c'était le sport. Et à l'âge de 15 ans, on me dit, monsieur, pour cette année déjà, c'est fini. Et les idées de faire du sport intensif et de faire du sport de votre vie, ça ne va pas être possible, quoi. En gros, on me dit, oubliez. Et c'est à ce moment-là que je crois que je décroche. C'est 15 ans, je décroche et là... Je me laisse aller, quoi.
Scolaire.
Ouais, et bah,
décrochage. Quoi.
Décrochage scolaire, ouais, c'est ça. Et je refais plus, je reste dans le parcours, hein, mais je rate, je redouble, je décroche. Enfin, en gros, je suis baladé d'une école à une autre qui, à chaque fois en fin d'année, me disent écoutez, monsieur Raskinet, faites autre chose, quoi. Jusqu'à l'année de mes 17 ans, où là, le recteur de l'école me convoque avec ma mère dans le bureau et me dit écoute, moi, je te conseille de suivre la voie de l'apprentissage. Ne t'exclus pas du système avant tes 18 ans parce que sinon ça va être des galères administratives et compagnie. Essaye de t'accrocher, va travailler 20 heures semaine chez un patron, enfin 3 jours semaine chez un patron, il va faire 15 heures de cours à l'école. Parce qu'à l'issue de cet apprentissage, tu auras l'équivalent du bac, donc le CESS en Belgique, certificat d'études secondaires et supérieures, qui donne après l'accès à des études de supérieures. Tu vois, et donc moi, bah, 17 ans, ok, ça marche. Je vais aller bosser, je vais gagner un peu d'argent. Et mon objectif, c'est bah, dans 4 ans, j'aurai le CESS. Donc à 21 ans, l'âge auquel tous mes potes avaient fini leur licence, bac, etc., bah, je savais que, tu vois, j'allais avoir un décalage. Et donc je m'engage là-dedans. Et c'est aussi à cette période-là que la drogue rentre dans ma vie parce que j'ai un peu de sous, parce que j'ai ma voiture, parce que je rencontre les gens qu'il faut ou qu'il ne faut pas.
Mmh. Ouais. Et à ce niveau-là, et toute cette période-là, est-ce que le harcèlement scolaire t'a suivi dans le domaine professionnel ? Est-ce que, par exemple, tu as un manager qui aurait répercuté ça par rapport à l'image que tu avais de toi ou pas du tout ? Ça s'est calmé ?
Pas tout le temps, mais ouais, j'ai quand même souvent eu des patrons... Je suis quand même souvent tombé sur des patrons qui étaient problématiques. Mais la chance que j'avais, c'est qu'ils étaient concentrés sur d'autres personnes en priorité. Mmh. Ouais.
Donc là, t'enchaînes. Donc là, tu commences à rentrer dans l'addiction, même s'il y avait cette bouée. Enfin, c'est même pas une bouée, là, c'est juste un travail avec l'espoir d'avoir le CS. Enfin, tu le visais, le diplôme, pour partir en supérieur après.
Bah oui, oui. Ouais. Je voulais pas être l'exclu du système. Ouais. Mmh. Ouais, ouais.
Et donc ensuite, c'est à partir donc là, tu as 17 ans, 17-18 ans.
Tu veux dire quoi quand je commence l'apprentissage ?
L'apprentissage, c'est 16-17.
Ouais, l'année de mes 17
ans. Et l'addiction vraiment, elle arrive plutôt
deux ans plus tard.
Deux ans plus tard.
Ouais, je suis en deuxième de. Ouais, c'est ça, ouais. L'année de mes 18 ans, sur le... Ouais, c'est l'année de mes 18 ans, ouais.
Et là, on est parti pour 5 ans de galère, c'est ça ?
Plus, hein, ouais, 6-7 ans même.
6-7 ans de
galère. Ouais.
Si tu peux reparcourir un peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore ton histoire.
Le truc, c'est qu'à cette époque-là, moi, je suis dans un environnement qu'on appelle un peu jeunesse dorée, parce que j'organise des soirées qui sont ultra populaires. On fait venir des DJ super connus. Donc moi, j'ai 17-18 ans. Et à cette époque-là, on a Afrojack, Orelsan, je fais une soirée avec Avicii dans une boîte à Bruxelles. Enfin, c'était les DJ du moment, les artistes du moment, fallait vraiment les plus gros artistes du moment, tu vois. On remplit des salles de 2000 personnes. Voilà, tu vois, je me balade dans la rue, tout le monde m'arrête parce que tout le monde veut parler avec moi. Donc moi, j'avais trouvé quelque chose pour compenser, si tu veux, la non-identité totale que j'avais. Et c'était un peu ma première drogue, finalement. Mmh. Enfin, ma première drogue, d'une certaine manière.
Une valorisation de la société par rapport à ce que t'avais fait.
Oui, c'était « j'existe et c'est ma manière d'exister, donc je plonge là-dedans ». Pour la faire courte, au début, je suis pas trop drogue. Quand les gens en parlent ou qu'on me propose, etc., je dis non, merci. Faites ce que vous voulez, mais moi ça m'intéresse pas. Et puis c'est de moi-même la fameuse soirée là où je passe l'après-midi avec Orelsan dans les rues de Liège. On a Afrojack à la soirée, il y a 2000 personnes à la Grand Poste. Je me dis, bon, bah, tu sais quoi, vas-y, si je veux essayer la coke, c'est aujourd'hui. Et donc, j'essaye la coke ce soir-là. Je demande à deux gars que je connais, je tombe sur eux dans les backstage et ils sont en train de se faire des rails. Et je leur demande, tu vois, d'essayer. Évidemment, ça leur fait plaisir de m'en passer. Ça, c'est la première fois que j'en prends. Mais il se passera un an avant que j'en reprenne une deuxième fois. Et par contre, la deuxième fois que j'en reprends, j'en prends parce que toute ma vie a été un effet boule de neige et que j'en pouvais plus, en fait. Et là, je serai avec une fille qui me trompe, elle se barre avec un des potes du groupe, et donc le groupe se retourne contre moi, balance des rumeurs, enfin bref, je suis exclu de mon propre groupe, donc là, enfin, je suis...
Tout le monde s'écroule, enfin, tout le nouveau monde s'est écroulé.
Oui, enfin, de toute façon, mes mondes s'écroulent les uns après les autres, mais là, c'est vraiment le truc, c'est le coup de grâce, quoi, si tu veux. Et à ce moment-là, ouais, à ce moment-là, réflexe direct, quoi, c'est cocaïne. Et là, oui. Là, je rentre dedans pour un tunnel de, ouais, de 6-7 ans.
6-7 ans. Tu avais peur, enfin, qu'est-ce que tu t'es dit en commençant ça? Est-ce que tu avais un recul en disant, je veux aller dans la fuite ou est-ce qu'il y avait une peur?
Il y avait vraiment ce truc de mise en danger, fallait que ça me fasse mal, fallait que ça m'explose la tronche. Donc, je buvais beaucoup, je m'envoyais plein de coke, je faisais des tours de l'horloge sans dormir, des afters à n'en pas finir, 3 jours de fête et 2 soirées de re-soirées, etc. Parce qu'il fallait... Je voulais pas revenir à la réalité, quoi. Mmh. À partir du moment où je buvais quelques verres et que je prenais des lignes de coke, je sortais, je m'échappais. J'étais en fuite et, oh putain, quelques heures, je pouvais, tu vois, oublier l'état dans lequel j'étais, que je comprenais pas. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Là, je t'en parle depuis le début avec du recul parce que j'ai analysé mon histoire, mais...
Non, t'as la tête dedans et la tête dans le bidon,
tu
captes rien.
Tu comprends rien, quoi. Tu comprends rien. Non, j'y vais direct pour me faire mal avec la coke. Ouais, c'est très impulsif, ouais.
Et est-ce que ton entourage le capte, que t'es en mode fuite ou fêtard, ou ils te prennent juste pour un fêtard Ils disent, ouais, il y a toujours dans la pêche, il y a toujours envie de faire la fête, ou est-ce qu'ils avaient bien capté que c'était de la fuite?
Tout le monde faisait la fête, tout le monde était en fuite. Donc c'était normal. Ouais. Tu vois, les gens que je fréquentais le centre-ville de Liège, il y a le carré, comme on appelle ça, c'est un carré avec des rues remplies de bars. 95% des gens que j'ai fréquentés là-bas, on était tous, d'une manière ou d'une autre, dans des environnements pas très sains à la maison, et tous, d'une manière ou d'une autre, dans une fuite. C'était un mode de vie normal pour nous, parce qu'on avait tous petite notoriété, pour une raison, pour une autre. C'était avant les réseaux sociaux, enfin, vraiment au tout début de Facebook, etc. Et donc, notre manière à nous d'exister, c'était à travers combien de personnes tu fais la bise quand tu rentres dans un café, tu vois,
qui organise les soirées. De l'ego mal plein.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et pas un pour rattraper l'autre, du coup, dans le groupe
Non, mais en plus, moi, les groupes, j'étais très, électron libre. Donc, à l'époque, c'était, t'avais le groupe t'avais le groupe des riches, t'avais le groupe des drogués, le groupe des fumeurs de bédo, le groupe des rappeurs, le groupe des graffeurs. C'était très segmenté comme ça. Et moi, j'avais des potes un peu partout. J'étais pas intégré dans tous les groupes, mais j'avais des potes un peu partout parce qu'il y avait plein de gens qui m'intéressaient, parce que je bougeais beaucoup, parce que j'ai cette personnalité-là. C'était pas un groupe d'amis, c'était un groupe immense de gens. Et dedans, tout le monde consommait plus ou moins de choses, mais tout le monde participait à cette vie festive dès les 15-16 ans.
Ce qui est fou, c'est qu'il n'y en a pas un qui lève la tête et qui essaye de freiner un peu les autres.
Comme je te dis, on vient tous plus ou moins d'environnements qu'on a envie de fuir, consciemment ou non. On n'a pas, enfin, à 15-16 ans, t'as pas du tout l'âge du recul, quoi. Moi, ça m'a pris, pour que je me rende compte moi-même de l'emprise psychologique et des conséquences, etc. Il m'a fallu attendre jusqu'à 25 ans que je tombe sur les bons livres, que mon cerveau soit capable de comprendre et de remettre en place les pièces du puzzle. Et puis après, là, il m'a fallu... aujourd'hui, j'en parle, ça fait 5 ans que j'ai eu cette prise de conscience et compagnie, mais tout ça, c'est un truc qui prend du temps, quoi. Quand t'as 16 ans, t'es absolument incapable de comprendre pourquoi t'es dans un mécanisme de fuite et de coping, moi, je bois de l'alcool parce que à la maison, ça va pas, tu vois.
Tu te l'avoues pas, c'est inconscient.
T'es incapable. Si t'as pas des ressources, si t'as pas un suivi psy, et même avec un suivi psy, tu vois, c'est un âge où... si t'es pas bien encadré, tu sais pas faire ça tout seul. Hein.
Clairement. Et les premiers déclencheurs là, qui te font... où tu relèves la tête, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire là, c'est quoi les signaux, les déclencheurs qui ont fait que t'as relevé la tête et que tu t'es dit, waouh, j'en suis où là, qu'est-ce que je fais?
D'abord, le déclic, c'est... le déclic, il part de... Je conscientise qu'il y a des schémas répétitifs qui sont installés dans ma vie, dans mes relations. du côté amical et du côté, on va dire, amoureux. Après, la cinquième relation de, on va dire, de couple officiel, donc de filles avec qui on se dit, voilà, on est ensemble et compagnie, relation exclusive, elle me dit, putain, c'est quand même chaque fois le même schéma, quoi. À chaque fois, je termine de là, je suis lessivé, il me faut 6 mois, 1 an pour m'en remettre, à chaque fois, je me fais trahir ou je me fais tromper. Enfin, je dis, il y a un truc qui tourne pas rond et ça me met la puce à l'oreille. Et puis je commençais à me dire, mais du côté de mes potes, c'est chiant aussi parce que je suis pas respecté, tu vois. Moi, je suis là pour les autres, eux sont pas là pour moi. Je commençais à me dire, bon, ça commence à faire beaucoup de, tu vois, beaucoup d'éléments qui se superposent. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, j'ai un truc un peu fou, c'est que ma mère est en train de vouloir de préparer sa séparation avec le beau-père avec qui elle était. Et elle me met un bouquin sur les yeux qui traite du sujet de la perversion narcissique. Et donc moi, j'ai un bouquin, 101 réponses sur les pervers narcissiques qui traînent dans la maison parce qu'elle est en train d'essayer de me dire que mon beau-père, nanana, est comme ça et que du coup, elle essaye de me monter contre lui, tu vois. Mmh. Et moi, j'ouvre ce bouquin et j'arrive pas à passer les 2 premières pages. Je lis, mais je le referme. Impossible. Mais je comprends pas tout de suite pourquoi, etc. Et puis je me dis, il traîne dans la maison pendant plusieurs mois, et je me dis, putain, je vais quand même l'ouvrir. Je l'ouvre, j'avance dans le truc, et je comprends pourquoi je n'arrivais pas à le lire. Parce qu'en fait, les histoires, la théorie et tous les concepts que je vois dans le bouquin racontent ma vie. Mmh. Donc toute la merde et la douleur qui est racontée, et toute l'emprise et la violence et le machiavélisme de ces personnes-là est racontée dans le bouquin. Et donc du coup, moi, je me dis, mais d'abord, je vois le comportement sur la fille avec qui j'étais à l'époque. Et là, pour la première fois de ma vie, je pose mes limites avec les gens et je la quitte. Et je me chope, par contre, le harcèlement par la suite, de « tu peux pas me quitter », du dénigrement, de le classique du comportement, et j'insiste sur comportement parce que ce ne sont pas des identités, c'est pas un ou une perverse narcissique, ce sont des gens qui ont un comportement pervers narcissique, parce que d'un point de vue scientifique, le pervers narcissique n'existe pas. Et donc, ces comportements-là, je les subis. En gros, elle perd la fille, elle perd son énergie, son jouet, parce que j'étais sous son emprise, hein, pour dire les choses clairement. Et à ce moment-là, je mets de la théorie pour me dire, OK, en fait, il y a un truc que je dois creuser et comprendre. Et en fait, quand je la quitte, que je vois son comportement, que je vois qu'elle change de visage complètement, qu'elle commence à devenir violente, que, enfin, vraiment, c'est genre, elle pète un câble. Et là, je commence à avoir la puce à l'oreille vis-à-vis de ma maman. Mmh. Et pendant ce temps-là, ma maman a des comportements. Elle sent que j'ai 25 ans, je deviens adulte, je commence à m'éloigner d'elle, elle a de moins en moins d'emprise. Et donc, elle est de moins en moins fine dans ses comportements et dans ses actions, dans ses manipulations, etc. Et là, il se passe un truc dans mon cerveau, c'est que je deviens de plus en plus clairvoyant. Et donc, j'arrive à repérer les éléments qui sont problématiques du côté de ma maman. Et là, y a un jour en fait où la pièce tombe. Les pièces du puzzle, c'est ceux qui croient en Dieu pourraient parler d'une révélation où c'est le premier jour où tu as vu Dieu. Mais moi, c'est voilà, l'année de mes 25 ans, enfin, 2017, je pense, où je me dis, mais putain, en fait, le problème depuis le départ, c'est ma mère. Mm-hmm. Le problème depuis le départ de ma vie, c'est ma maman. Et c'est là que ma vie change. Le point de bascule de ma vie change. À ce moment-là, je suis toujours dans la consommation. Je t'en parlais tout à l'heure quand on mangeait, mais je traverse un épisode suicidaire qui dure 4-5 jours où je rentre dans un tunnel et où, en fait, mec, c'est impossible à encaisser. Je vis dans le même appartement qu'elle, en plus. Je réalise que ma mère est une personne non seulement extrêmement dangereuse, mais en plus de ça, je me refais le film des 25 années qui viennent de passer où je me rends compte que j'ai pas de maman, en fait. J'ai une personne en face de moi qui ne m'a jamais considéré comme son fils et qui a passé sa vie à m'attaquer, à m'agresser, etc. Aucun dialogue possible. Donc, je me rends compte que je vais devoir faire le deuil de ma maman de son vivant. Et ça explose, quoi.
Et toutes donc, les pièces se mettent en même temps. Et en fait, c'est ce déclic qui a tout rassemblé. Et l'histoire, elle est à...
Oui, oui.
Claqué au visage. Quoi.
Je te dis, c'est vraiment à un moment donné, mon cerveau a eu la capacité
j'avais
de traiter les infos.
J'avais pas compris que t'étais en couple, en fait. Et donc, quand t'étais en couple, tu consommais alors que t'étais en couple, là.
Oui, j'ai toujours consommé, enfin, toutes les filles avec qui je suis sorti, sauf une, ou peut-être deux. Il y avait Ouais, peut-être sur les 5, il y en a peut-être eu une qui n'était pas trop sorteuse, pas trop buveuse. Mais du coup, qui venait, qui m'accompagnait à l'hôpital quand j'abusais, quand j'abusais sur les consommations.
Et là, toujours personne en mode alerte, enfin,
non,
personne
jamais.
Qui essaye de te
recadrer. Jamais. Tout le monde m'a regardé, même ma mère, elle était au courant, elle ne me l'a jamais dit. Une fois, elle était à l'hôpital sous médicaments, etc. Et elle me l'a sorti pour m'attaquer. Elle m'a dit, en rigolant avec son air supérieur, j'étais en train de changer d'employeur et elle me regarde et elle me dit « Non, mais tu crois quand même pas que tu vas retrouver du travail, tout le monde sait que t'es coquet. » Et j'étais là. Putain. Et c'est là, on était en plein hiver, je me rappelle encore parfaitement de la scène devant l'hôpital et ma mère complètement à la masse à cause de son traitement, etc. Non, il le savait très bien. Dans ma mère et mon beau-père, ça va être très bien parce que les gens parlent et moi je me suis jamais caché. Donc on vivait dans une région où les gens ils le savaient très bien. J'ai oublié des fois des sachets de coke sur le plan de travail à la maison en rentrant de soirée. Je suis rentré le lendemain matin. Enfin, je suis revenu en me réveillant, le sachet était ouvert dans la cuisine. Donc ils savaient très bien. Il y avait non seulement des preuves de gens qui leur en parlaient, plus des preuves matérielles que j'avais laissées moi. Plus je commençais à maigrir, j'étais blanc. Enfin, la période 20-22 ans, je ressemblais à rien, tu vois. Donc non, il le savait, mais au contraire, c'était pour une personne comme ma mère, c'était plutôt un signe de travail accompli par rapport à la manière dont elle fonctionne, quoi.
Dans son dysfonctionnement, qui est une zone d'inconfort confortable pour elle, en fait.
Il faut que les autres souffrent et il faut que je voie l'impact de ma violence sur eux pour moi aller bien. C'est ça la partie perverse du dysfonctionnement. Ouais.
Est-ce que tu crois que tu aurais pu éviter ça ou en tout cas,
impossible. Mec, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Hein. Ouais. Ah ouais, impossible. Impossible, j'ai fait des fugues.
Par rapport
j'ai...
à tes relations. Non, t'as fait des signaux et, qui n'ont jamais été écoutés.
J'ai fait
quoi.
Tout ce que je pouvais avec les moyens et la lucidité et la clarté que j'avais. Non, j'ai fait tout. J'ai fui, j'ai fait des fugues. J'ai essayé d'aller retrouver mon père, mais mon père qui, tu vois, il doit déjà se gérer lui-même depuis toujours. Donc. Compliqué, il y a même plein de trucs, il y a des traces à la police, ma mère m'a éjecté, elle m'a jeté dehors, j'avais 7 ou 8 ans, elle appelle mon père, elle m'a dit j'en veux plus, elle a pété un plomb parce qu'il y avait une console à la maison et que mon père m'avait offert une console, je l'avais ramenée chez moi et à la maison les consoles étaient interdites et dès que tu faisais un truc que ma mère avait décidé que c'était interdit, elle était capable de me fracasser, de me retourner dans tous les sens. Elle a été violente que 2-3 fois physiquement avec moi, mais les fois où elle a été violente, elle m'a défoncé, quoi. Enfin, elle m'a roué de coups. Ouais. Ouais,
vraiment, pétage de plomb. Ok, donc là, tu découvres tout le truc, j'imagine bien. Et donc là, tu as la phase hyper négative pendant quelques jours. Et après, tu pars directement en voyage après ça, t'enchaînes direct. Comment ça se passe
Ouais, ce qui se passe, c'est que je suis en appartement avec ma maman. Quitter une personne comme ça, c'est compliqué. Mm-hmm. Compliqué parce que ces gens-là installent des choses. On a souvent cette relation avec ce qu'on appelle des gens ou comportements pervers narcissiques dans les relations de couple. C'est ce dont on parle le plus. Mais la relation mère-fils ou fils, enfin parent-enfant, elle existe aussi. Et elle est très compliquée parce que ce sont des gens qui ont tissé leur emprise sur toi depuis ta naissance. Donc, ils t'ont fabriqué d'une certaine manière. Mmh. Donc, c'est très, très compliqué de se défaire de ça. Et moi... Il faut 6 à 8 mois de stratégie. C'est un jeu d'échecs, mais de fou. De stratégie, de OK, qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je vais me comporter pour espérer tel comportement et arriver à faire bouger le jeu dans mon sens et arriver à un moment donné à partir. Donc, ça me prend 8 mois. Mm-hmm. 8 mois où je me dis OK, mon objectif, c'est de partir de l'appartement parce qu'il y avait des contrats que j'avais signés. Enfin, elle m'a fait signer des contrats. Je pouvais pas me barrer comme je voulais. Bref, elle avait menacé de se retourner contre moi si je payais pas mon loyer. On vivait dans le même appart, le frigo, je pouvais pas me servir dans son frigo. Enfin, je pouvais pas prendre une feuille de salade, quoi. C'était à elle. Et ça, pour te dire jusqu'où ça allait.
Level hyper.
J'arrive à me barrer de ce truc-là. J'arrive à me barrer non sans peine de ce truc-là. Et là, par contre, je me retrouve libéré, mais seul. Et là, ça dure plus ou moins un an et demi, où déjà je retombe sur mes pattes et je relâche un peu, tu vois. Ok, je suis sorti. Mais par contre, je consomme toujours et la vie continue, je travaille, mais c'est, voilà, je reprends des études supérieures à ce moment-là.
Mais tu fonctionnes, quoi. Enfin, ça fonctionne plus.
Oui, enfin, j'essaye, ouais. Parce que je prends quand même de la coke toutes les semaines, ouais. Et je sors et je suis quand même toujours pas bien, tu vois. Mm-hmm. Je me suis pas rétabli de ce truc-là. Le voyage au Vietnam, il arrive en 2019, parce qu'en 2019, deux ans après avoir réussi à mettre, enfin un an et demi après avoir réussi à m'extirper, à me sauver de chez ma maman et de mettre un terme définitif à cette relation, je suis au pic de mon addiction. C'est-à-dire que là, mes week-ends, c'est du mercredi au dimanche. Enfin, tu vois, ça s'arrête jamais. Les grammes de coke défilent, on mélange les substances. Enfin, tu vois, je commence à vraiment taper dans des consommations qui sont complètement dangereuses pour moi. Et ça devient de pire en pire. Et au bout au bout du bout, je fais la soirée de trop avec des gens, encore une fois, qui ne me respectent pas, qui me droguent à mon insu. Donc il y a un liquide que je suppose, mais un liquide, un cannabinoïde, donc c'est du cannabis de synthèse qui a été déposé sur ma cigarette, je fume dessus, et là, pas avoir dormi pendant 48 heures, la cocaïne, l'alcool, etc., ça fait un mélange explosif et mes jambes, enfin voilà, mais je tombe droit comme un i, en fait, j'ai plus de force, je suis un peu paralysé, je suis en tachycardie, j'ai ma vue qui se brouille, enfin tu vois vraiment l'état où tu sais que c'est pas juste parce que t'as pas dormi depuis 48 heures, l'état où c'est tellement puissant que t'as un truc que tu connais pas dans ton corps. Et dans cette soirée-là, en fait, ça m'a choqué, enfin profondément choqué, parce que j'ai passé deux heures dans un divan avec les gens avec qui j'étais à la soirée, qui sont restés dans la cuisine et ils m'ont même pas demandé si ça allait ou pas, tu vois. Donc moi, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'ils m'ont drogué, qu'est-ce qu'ils vont me faire, comment est-ce que je vais finir, qu'est-ce qui va m'arriver. Et tout ce stress-là, toute cette angoisse, et la réalité, c'est que j'ai cru que j'allais crever. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, je suis incapable de bouger, je peux pas bouger les jambes, je peux pas parler. Donc, enfin, je sais pas, ils vont me tuer ou, enfin, tu vois, j'étais peut-être en parano, mais dans ma tête, c'était instinct, enfin, j'étais en mode survie, mais je pensais que j'allais crever ce soir-là. Et en fait, c'est cette soirée-là, ça a été le déclic. Ça a été le déclic parce que j'étais arrivé au bout du bout du bout du bout de ce que j'avais à me prouver à moi-même et que j'avais à comprendre dans ma façon d'interagir avec les autres. Et ce soir-là, j'ai compris à la fois que j'avais le problème de la consommation et que j'avais le problème toujours relationnel et que je répétais les schémas répétitifs, même si j'avais mis un terme à l'histoire avec la copine et même si j'étais plus avec ma maman. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, mec, maintenant, ta vie, elle va changer. Et je me suis pas dit, il faut sortir de l'addiction. Je savais pas ce que c'était que l'addiction avant, il y a un an et demi en termes médical. Je me suis dit, ta vie, elle va changer. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai mis en place le projet de partir au Vietnam. Et si, donc ça, j'arrête en mars et je pars en décembre. Et je revends toutes mes affaires, etc. Et je me dis, OK, tu vas aller 3-4 mois au Vietnam. Prendre une pause dans ta vie, t'en as besoin. Prendre un peu de recul. Et à ce moment-là, je découvre Internet, le business en ligne. Et je découvre un petit peu les mecs qui vendent des formations, etc. Et je commence à me dire, en fait, je pourrais développer des compétences et vendre des services via Internet. Et donc, c'est cette année-là que je décide à la fois d'arrêter mes études 6 mois avant les examens, en dernière année de mon bac, de ma licence en relations publiques, parce que je me dis, mais en fait, non, moi, ma vie, ça ne va pas être dans les entreprises, ça ne va pas être dans le monde du travail où il y a manipulation, emprise, politique, tout ça. Ça, ce n'est pas pour moi. Je vais être indépendant, je vais monter mes projets, ça va prendre du temps, il va falloir que je me forme, que je me rétablisse de mon addiction et des séquelles de l'emprise familiale. Mais voilà, tu vas prendre 3-4 mois au Vietnam pour respirer. Et je pars en décembre 2019, le 10 décembre, un mois et demi plus tard, il y a le Covid qui est annoncé. Et donc là, ni une ni deux, moi, je prends la décision de rester sans savoir combien de temps ça va durer.
Énorme. Par rapport à ton arrêt 6 mois avant, donc tu es en troisième et tu arrêtes 6 mois avant la fin d'année?
Ouais, c'est ça, 3-4 mois avant la fin de l'examen.
Parce que tu vois que tu as fait fausse route, en fait.
Parce que le milieu scolaire, parce qu'en fait, j'ai fait 2 stages en troisième année. Et que déjà à l'école, enfin les profs, tu sais, quand j'avais tellement pas fait d'études avant, j'avais tellement été exclu du système que quand moi je suis arrivé aux études supérieures, j'y suis arrivé déterminé. Je me suis dit, moi je vais vous montrer qu'en fait je suis pas un imbécile, que je suis capable d'étudier, que je suis capable de réussir des études, etc. Et je veux être le mec qui va chercher son diplôme comme 90% de mes potes, tu vois. Mmh. Et donc, j'étais assidu, je réussissais tous les examens, j'avais des repêches sur les trucs qui étaient vraiment casse-couilles et qui étaient durs à étudier. Mais c'était, enfin, pour un mec qui venait de là où il venait par rapport au niveau éducatif, je suis arrivé, j'ai tout arraché, tu vois. Et puis, à un moment donné, comme j'étais super investi, je vais dans les bibliothèques, j'approfondis les contenus, etc. Et puis, quand j'ai commencé à tomber sur des bouquins et que je me suis rendu compte que certains de mes cours, c'était simplement des copier-coller de bouquins, de profs qui s'étaient pas fait chier, etc. Je me suis dit, mais attendez, vous foutez de ma tête ou quoi ? Moi, je m'investis dans le système éducatif pour me faire former, et je me rends compte qu'en fait, il y en a les trois quarts de vous, vous la coulez super douce, vous recopiez des trucs, et ça tient pas la route. Et donc là, moi, j'ai perdu foi au système scolaire, en tout cas au système scolaire dans lequel j'étais intégré, tu vois, parce que j'ai pas fait d'autres écoles, je peux pas comparer tout. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas cohérent, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pris ça pour un manque de respect. Et puis, combiné à ça, j'ai fait deux stages dans des entreprises où, tu vois, de l'extérieur, avant de rentrer sur le marché de l'emploi, tu te dis, oh, bah, je me verrais bien bosser dans tel et tel secteur. Et il y avait le milieu de l'enseignement en alternance, d'où moi je provenais, parce que je m'étais dit, je vais aller, avec mon parcours, travailler sur des problématiques d'insertion de jeunes qui ont décroché l'école ou qui sont dans le parcours professionnel. Et donc, je vais dans un gros organisme comme ça en Belgique, et je fais un stage chez eux, et je vois les jeux politiques, je vois les trucs, et je me dis, mais non, mais moi, jamais de la vie, je vais aller bosser là-dedans. Je fais un deuxième stage, pareil, ou désillusion du monde du travail. Je me dis, mais moi, je ne vais pas me battre pour avoir un diplôme, pour aller travailler dans une boîte comme et en plus me battre pour rentrer dans une boîte comme ça, tu vois. Donc moi, là, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, non, t'es juste... C'est pas grave, arrête.
Ok, donc là, tu repars, tu pars sur le Vietnam, t'es bloqué, là, donc, Covid, et finalement, tu prends la décision d'y rester en ne sachant pas vraiment la date finale, et là, tu commences... En même temps, ton parcours, enfin ton voyage, et en même temps, ton travail de freelance.
Ouais.
En digital nomade, quoi.
Je commence mon voyage et je commence mon rétablissement, mon vrai rétablissement. Mmh. C'est la première fois de ma vie que je suis vraiment... Tu sais, je suis à l'autre côté de l'autre côté de la planète, donc je suis très loin de tout ce qui s'est passé dans ma vie et je peux enfin commencer à souffler. Je peux enfin commencer à exister, en fait, simplement. Et à me rencontrer moi-même. Ça paraît bateau, mais tu vois, C'est à ce moment-là, seulement 26-27 ans, que je commence à m'autoriser des goûts musicaux, à m'autoriser des lectures, à m'autoriser des films, à m'autoriser des choses que je n'étais pas autorisé à faire parce que je n'avais pas de place pour me développer chez moi. Donc c'est une période, pour moi, je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais c'est un alignement de planète et c'est une bénédiction. À ce moment-là de ma vie, d'avoir eu un temps aussi long au Vietnam, en liberté, pendant que tout le monde était à l'arrêt au Covid, c'était une bénédiction parce que...
Excuse-moi, financièrement, comment t'as organisé ça ? C'est tout ton plan d'avant ou t'avais mis un peu d'argent de côté ?
J'avais mis un peu d'argent de côté et puis je me suis débrouillé.
Sur place aussi ?
Ouais, j'ai eu des petits contrats freelance. Sur place, j'ai bossé comme prof d'anglais. J'ai pas vécu avec des gros moyens, mais j'avais besoin de 700-800 balles par mois pour vivre correctement. Donc, j'ai réussi à me débrouiller, ouais.
Top. Et par rapport à... On dit souvent qu'il y en a qui partent en voyage pour fuir. Est-ce que c'était pas une autre sorte de fuite à la base ?
Si. Peut-être. Ouais. Peut-être un peu.
Au démarrage, ça l'était peut-être, mais en fait, ça t'a recadré.
C'était pas une fuite en mode je veux... Comment dire ? Parce que souvent, la fuite, c'est... Tu vois, t'as quelqu'un qui va se dire « Je vais tout recommencer ailleurs ». Mais en fait, elle va emporter ses problèmes avec elle ou avec lui de l'autre côté. Non, moi, c'était il faut que je sorte de là où je suis pour respirer. C'était ça l'objectif. Mais il y avait aussi ce truc de fuite un peu au départ. Mais ça s'est fait comme ça.
Oui, c'est ça. Mais moi, en plus, c'est quand même en mode voyage. Et indirectement, c'est la fuite de ta famille aussi, peut-être. Indirectement, tu dois t'extirper de cette négativité.
En fait, être loin. Je voulais avoir de la distance avec les événements. Ouais. Parce que, d'un point de vue traumatique, c'est compliqué. Hein. Quand t'es les lieux, les événements, tu sais, quand t'as l'impression ou la peur que, je sais pas moi, quelqu'un vienne te faire du mal parce que t'es parti et que tu vis à seulement 20, 30 ou 40 kilomètres. Au début, tu te demandes si quelqu'un va pas venir à la sortie de chez toi t'agresser ou venir te rechercher. Donc, tu vis avec cette peur que la personne, elle revienne t'agresser, quoi. Tu vois, comme une femme qui a été sous emprise pendant 10 ans, avant que, enfin, si, vivre dans la même région que ton mari agresseur, c'est impossible. Pour te reconstruire, c'est impossible. Faut non, de la distance.
Ça, faut de la...
Ouais, ouais.
Et c'est pas de la fuite, c'est de la distance.
Ouais,
juste
c'est
par précaution et pour ouais. te mettre à l'abri, quoi. Mm. Et est-ce que tu peux dire, en fait, que c'est carrément du harcèlement, ce que tu as vécu avec, avec la relation avec ta maman? Ou est-ce que ça...
Oui, enfin... Oui, le harcèlement, ça a été... Oui, enfin, il y a eu du harcèlement dans toute ma vie. Se servir de mes défauts pour me détruire, pour me faire des remarques, pour me rabaisser, c'était...
Avec une récurrence, en fait.
Avec une récurrence quasi quotidienne, ouais, ouais.
Ce qui est ouais. totalement fou. Ok. Voilà, par rapport à l'addiction, enfin, c'est un message assez court, mais juste... Enfin, si tu vas dire à quelqu'un d'arrêter, enfin, il va pas arrêter comme ça. Si toi, tu as des conseils, on a un pote qui voilà, qu'on voit qui est sous coke, qu'on aimerait bien l'aider, qu'est-ce qu'on peut lui dire sans être moralisateur, sans lui faire la morale? Est-ce qu'on sait déjà lui dire quelque chose?
C'est difficile, hein. C'est quasiment impossible. C'est très compliqué. C'est très compliqué de d'aborder le sujet avec des gens. Ça dépend aussi du degré de proximité que tu vas avoir avec la personne qui est concernée par les troubles de l'usage ou l'addiction. Mais enfin voilà, avec un comportement à risque, en tout cas avec des stupéfiants et même des addictions comportementales, c'est des sujets. Si la personne est dans le déni ou si elle est juste au début ou tu vois, ça dépend. Il y a plein de questions de temporalité aussi. Et d'intimité que tu as avec la personne, la confiance qu'elle t'accorde ou pas. Savoir qu'une personne qui a un comportement addictif ou qui est dans l'addiction, elle est déjà loin dans un processus d'isolement, peut-être pas social, mais avec elle-même. Elle est très renfermée vis-à-vis d'elle-même. Donc elle n'est pas sur le même niveau de conscience que nous. Donc c'est très compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est montrer qu'on est présent. Et un jour où la personne n'est pas dans la consommation ou pas dans un état de conscience modifié, c'est d'en parler. Mais d'en parler, et ce qui est surtout très important, c'est de montrer la sincérité de la présence. C'est-à-dire ne pas être intrusif, mais dire voilà, écoute, je m'inquiète pour toi parce que j'ai remarqué ça. Je voudrais bien qu'on, si tu veux, qu'on en parle. Et sache que si jamais tu ne veux pas en parler maintenant, c'est tout à fait OK. Je respecte ton choix, mais sache que si jamais tu as besoin d'aide, ben, je suis là. C'est la seule chose et je pense la meilleure chose à faire avec une personne à qui on tient, quoi. Le frontal est à éviter.
Ouais, le frontal, je crois que c'est mort.
Le frontal est à éviter.
La pitié aussi, je pense. Enfin,
Oui, ça c'est clair. Mais le frontal est à éviter, la culpabilisation est à éviter, la menace, le chantage sont à éviter parce que l'addiction... C'est une maladie, c'est des zones du cerveau dont les structures sont modifiées, le système de la récompense, de la motivation. On n'est pas juste sur j'arrive pas
la
à décrocher
volonté,
de mon téléphone.
Ouais, ouais.
On n'est pas juste sur, tu vois, le
Il n'y a pas de volonté.
C'est ça, oui, c'est ça. C'est pas une question de volonté. Non, non, c'est une vraie maladie. Donc en fait, tu par conséquence, tu ne peux pas. Comment dire, être plus fort avec une menace ou du chantage que la maladie, c'est impossible.
Ok. Par rapport toi, à tes aspirations là maintenant, où t'as envie d'aller, est-ce que tu vois bien plus clair?
Ah ouais. Ouais. Par rapport à ma vie, tu veux
par
dire?
Par rapport à bah, tout
par
ton parcours, c'est juste fou, et par rapport à ce que là maintenant, les révélations que t'as eues, là où tu veux aller, t'as un peu tes plans en fait, tes objectifs.
Ouais, bah déjà mes plans, c'est de continuer d'en parler. De continuer d'en parler parce que j'ai conscience que j'ai un alignement à la fois de compétences et de choses et d'éléments dans ma vie. Je sais pas si tu connais le discours de Steve Jobs qui parle de connecting the dots. Mm-hmm. Et donc c'est l'idée que à un moment donné dans ta vie tu vas relier tous les points d'étape que t'as passé pour en faire quelque chose et à ce moment-là un peu appuyer sur l'accélérateur et transformer en fait toutes les compétences que tu as apprises que tu sais peut-être pas assimiler au début et que tu comprends peut-être pas pourquoi tu fais ça et puis ça et puis ça et puis un jour bah tu te retrouves avec une évidence. Et moi l'évidence c'est des compétences en communication, c'est une clarté et un recul sur mon histoire, c'est la gestion des réseaux sociaux et la capacité à retranscrire mon histoire de manière authentique et fluide, c'est la capacité à créer un podcast et à construire une audience, c'est tout ce pourquoi mon projet aujourd'hui existe. J'ai développé toutes ces compétences-là les 30 dernières années. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence d'être à cet endroit-là. Mmh. Et j'ai trouvé ma place sur Terre, dans ma vie. Genre, venir ici parler de ça avec toi, c'est quelque chose qui, pour moi, est presque de mon devoir. Dans le sens où c'est tellement un alignement de planètes et je dirais peut-être pas facile, mais naturel pour moi de faire ça, d'avoir cette mission-là, que je me dis, je le fais pour tous ceux qui, en fait, seraient pas capables de témoigner à visage découvert ou... Et je les comprends, hein. Je les comprends. Moi, c'est parce que la vie a fait que j'ai eu besoin d'en parler, que j'ai tellement traité et processé le sujet dans ma tête qu'aujourd'hui, je suis à l'aise d'en parler. Et je connais tellement l'importance des témoignages parce que c'est les témoignages qui, moi, m'ont aidé à l'époque où j'étais au fond du trou.
Qui sont
aujourd'hui, bah, je me dis, tu vois, je fais ça. Et donc, mes plans, bah, c'est de faire grossir ce projet, d'être la première, enfin, la personne... avec le plus d'influence sur le sujet de l'addiction dans les 5-10 prochaines années. Pas parce que moi, je veux être dans la lumière, mais parce que je sais qu'en parlant du sujet, en continuant à montrer qu'on a le droit de parler de ces addictions, qu'on a le droit de parler, qu'on a été victime de violences familiales, etc., déjà, ça aide les autres à en parler. Ça montre qu'on a le droit d'en parler publiquement et qu'il ne nous arrive rien. Enfin, en tout cas que c'est possible, tu vois, que la libération de la parole est possible. Et donc l'objectif, c'est voilà, de structurer ces projets-là, d'en construire un modèle économique qui soit au service des projets qui sont développés dans la structure Sortir de l'addiction. Et puis après, c'est de tout casser, quoi.
Génial.
Ouais.
Super. Bah, est-ce que tu aurais un message final que tu souhaites partager avec ceux qui écoutent ou qui nous regardent,
ouais.
Que ça soit sur l'addiction, sur le harcèlement ou même sur le parcours de vie global?
Il y a un fil conducteur. Moi, chez moi, ce qu'on peut mettre dans le mot résilience, finalement. Mais qu'est-ce que c'est que la résilience? Et moi, chez moi, ça a été de... à chaque fois que j'ai mis un genou à terre, je me suis relevé. Et ça, c'est compliqué parce que c'est des trucs, des fois, tu sais pas développer cette capacité-là, tu sais pas trop d'où ça vient et compagnie. Mais moi, ce que je dirais, quelle que soit la situation, c'est de jamais arrêter de se battre, en fait. De jamais arrêter de se battre, de jamais... jamais arrêter de se relever tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est compliqué parce que quand t'es gamin, quand t'as 10, 12, 15 ans, parce que moi, c'est que ça toute ma vie. Jusqu'à 25 ans, c'est tous les jours, t'es descendu, tu dois te relever. Tu redescends plus bas et tu dois te relever à chaque fois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, même si t'en chies et que c'est dur et que c'est compliqué et que je passais à côté d'épisodes suicidaires, j'ai du comportement à risque, j'ai pris de la coke pendant 7 ans, enfin je veux dire, je me suis fait du mal, ça aurait pu mal finir plus d'une fois, tu vois. Donc je veux dire, c'est pas je suis pas heureux de ce parcours là tu vois, mais par contre, le fait de jamais avoir rien lâché et de chaque fois m'être relevé, aujourd'hui à 30 ans, j'ai une force que je repère rarement dans les gens que je rencontre, d'un point de vue résilience. Donc même si c'était bête et méchant et qu'on se forçait un peu à se dire « Non, mais c'est bon, j'y vais et j'y retourne et j'y vais et je lâche rien », en gros, c'est un peu ce que moi j'ai fait. Mais je me rappelle des fois dans ma tête de me dire « Demain, ça va aller. Aujourd'hui, c'est la merde, mais demain, ça va aller. » Et tu vois, et des fois, quand t'entends des gens sur des vidéos avoir des conseils de développement personnel et compagnie, ça peut sonner creux comme message. Mais moi, factuellement, c'est ce que j'ai fait. Je me disais « Putain, t'as 15 ans, ta vie, c'est de la merde, mais tu vas continuer, ça va aller. À 20 ans, ta vie, c'est de la merde, c'est compliqué, mais putain, lâche rien, parce que je sentais au fond de moi qu'un jour, ça allait aller, et donc, j'ai rien lâché. Donc moi, le truc que je dirais aux gens, quelle que soit la problématique, c'est de jamais rien lâcher et de chercher en priorité les ressources pour se faire aider, pour se faire accompagner, d'en parler, de libérer la parole, pour les addictions, d'aller voir un médecin généraliste, de prendre rendez-vous avec un psy, d'extérioriser, de pas rester seul. Harcèlement, addiction, jamais rester seul et essayer de se faire aider. Et une fois qu'on commence à se faire aider, on se rend compte que le chemin va être un peu plus long que prévu parce qu'on règle pas les problèmes en claquant des doigts. Et c'est à ce moment-là qu'il faut redoubler d'efforts et se répéter tous les jours de pas lâcher. Et un jour, ça ira mieux.
Super. Ben, merci beaucoup.
Merci à toi pour l'accueil.
Merci bien. Énorme.
Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? L'histoire de Gabriel, marquée par des défis immenses et une résilience remarquable, est une source d'inspiration profonde. Sa capacité à se relever, à poursuivre sa quête de guérison et à aider les autres dans leur propre voyage est vraiment admirable. Je retiens la nécessité de parler ouvertement des luttes personnelles, l'importance de chercher de l'aide et le pouvoir de la communauté dans le processus de guérison. Les mots de Gabriel nous rappellent que peu importe la profondeur de nos épreuves, il y a toujours une voie vers un avenir meilleur. Je te laisse méditer sur ces paroles et je te dis à très vite dans Feel Scout.